Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, nous sommes arrivés dans l'explication du catéchisme du Concile de Trente aux deux derniers commandements. Et comme le diraient nos voisins d'outre-Manche, le dernier n'est pas le moindre. Ces deux derniers commandements sont très importants, car ils vont nous donner le moyen de garder tous les autres. En effet, ils vont venir nous avertir contre un danger en nous qui est à la racine et à la source de tous les maux, la convoitise. Les voici. Désir mauvais repoussera pour garder ton corps chastement, bien d'autrui ne convoitera pour l'avoir malhonnêtement. En substance, ces deux commandements nous demandent de nous garder des mauvais désirs d'une part et des désirs déréglés d'autre part. Ils viennent en cela expliciter, préciser les sixième et septième commandements en allant jusqu'à l'intention même qui est le principe de l'acte. Alors nous verrons d'abord ce qui est défendu, puis ce qui est recommandé pour terminer par quelques conseils pratiques à notre époque. Qu'est-ce qui est défendu? Eh bien, à première lecture, nous serions tentés de répondre « la concupiscence ». Il faut distinguer. Tout d'abord, voyons ce qu'est la concupiscence. C'est un mouvement, un élan de l'âme qui nous porte vivement à désirer les choses agréables que nous n'avons pas. Eh bien, il y a une bonne concupiscence. Il y en a même une excellente. Et malheureusement, il y en a une mauvaise. La concupiscence a été créée par le bon Dieu. Donc, dans son essence, en soi, elle est bonne. Elle est bonne tant qu'elle est gouvernée par la raison. Ainsi, eh bien, la faim, la soif, si nous ne désirions pas manger, s'il fallait se nourrir par devoir, sans aucun plaisir, sans aucun désir, cela ferait longtemps que la race humaine serait éteinte. Le bon Dieu, nous connaissant bien, a mis en nous ce désir de nous nourrir. Et non seulement cette concupiscence est bonne, mais elle est même très utile, tant au point de vue naturel, comme nous venons de le voir, mais même au point de vue surnaturel. Désirant manger, par exemple, eh bien, nous allons nous mettre à prier pour demander à Dieu qu'il nous donne notre pain de chaque jour. Et si nous sommes de bons chrétiens, nous allons remercier Dieu aussi chaque jour du pain qu'il nous a donné, de la nourriture qu'il nous a offerte. Donc, cette concupiscence va nous permettre, en fait, de nous retourner vers le bon Dieu, tant pour lui demander que pour le remercier. Et par là même, elle va nous rendre plus précieux, plus chers, les dons que Dieu nous offre. Nous avons dit qu'il y avait une concupiscence qui était excellente. Comment cela? Une histoire nous fera comprendre. L'histoire de la bienheureuse Imelda. De son temps, on ne pouvait communier que assez tardivement. Et cette bienheureuse se consumait du désir de recevoir Jésus hostie. Mais la réponse était toujours la même, « Non, il faut attendre, vous êtes trop petite. » Et Imelda se desséchait dans son banc à attendre Jésus hostie. Et son désir devint si fort que notre Seigneur n'y résista pas. Un jour que le prêtre donnait la Sainte Eucharistie, qu'il distribuait la Sainte Communion, une petite hostie s'envola du ciboire pour aller se placer au-dessus de la tête de la bienheureuse. Jésus n'avait pas pu résister au désir de sa servante et il venait lui-même se donner à elle. Cette communion fut tellement fructueuse, la charité grandit tellement dans cette belle âme que la bienheureuse mourut d'amour dans son action de grâce après avoir reçu Jésus hostie. Il y a donc une bonne et une excellente concupiscence. Mais si Dieu a fait deux commandements pour nous mettre en garde contre la concupiscence, c'est qu'il en existe une mauvaise. Celle qu'on appelle la concupiscence de la chair. C'est la concupiscence qui n'est plus réglée par la raison. Le péché originel est venu mettre du désordre en nous-mêmes. Et tous, nous en avons l'expérience, nous désirons d'une manière trop vive certaines choses bonnes, ou nous désirons des choses mauvaises, ou, même si elles ne sont pas mauvaises, des choses qui ne sont pas bonnes pour nous à posséder. Alors prenons des exemples. La mauvaise concupiscence va nous faire désirer le mal. Et elle est la source de beaucoup d'autres péchés. Prenons le saint roi David. David est l'une des plus belles figures de l'Ancien Testament, l'un des plus grands saints de l'Ancien Testament. Il était déjà arrivé à un haut degré de sainteté quand, se promenant un jour sur les terrasses de son palais, il remarqua une belle jeune femme et il se mit à la convoiter, à la désirer. S'informant, il apprit qu'elle était mariée. Eh bien, au lieu de résister à son mauvais désir, au lieu de lutter contre sa convoitise, David va céder. Il va faire le mal et, voulant aller jusqu'au bout de son péché, il va même aller jusqu'à faire tuer le mari de cette femme. Il va envoyer un message au généralissime de ses armées pour lui ordonner d'exposer le mari de cette femme, qui était un militaire, au milieu de la bataille, à l'endroit le plus dangereux et au moment le plus crucial de l'abandonner. Ce qui devait arriver arriva, l'homme fut tué et ainsi David put en toute impunité prendre comme épouse cette jeune femme. Mais Dieu le punit terriblement. Les châtiments qui s'abattirent sur lui furent terribles. Son fils Absalom se révolta contre lui, entraînant derrière lui beaucoup des tribus d'Israël. Ce fut la guerre civile et de nombreux autres châtiments. Tout cela pour une convoitise qui n'était pas réglée par la raison, qui désirait le mal. Il est une autre sorte de convoitise mauvaise, c'est celle qui va nous faire désirer des choses qui sont bonnes en soi, mais à cause de certaines circonstances, mauvaises pour nous. Par exemple, reprenons l'Ancien Testament. L'or est quelque chose de bon en soi. Cela a été créé par le bon Dieu pour notre service. Et il veut que nous en fassions bon usage. Yahvé avait interdit à son peuple élu d'utiliser l'or qui avait été pris pour les idoles, car il savait qu'il y avait un fort danger d'idolâtrie à ce moment-là pour son peuple, comme cet or avait déjà été utilisé pour façonner des idoles. Enfin, il est une troisième sorte de mauvaise concupiscence, c'est celle qui va nous faire désirer le bien qui est bon en soi, mais qui appartient à un autre, qui appartient au prochain. D'où des jalousies, des manquements à la charité, des vols, etc. Cette concupiscence est mauvaise, oui, à partir du moment où nous y consentons. Comprenons bien, sentir n'est pas consentir. C'est pas parce que nous sentons en nous le désir d'avoir telle ou telle chose qui appartient à notre prochain qu'il y a immédiatement péché. Le péché arrivera au moment où notre volonté se retirera, ne s'y opposera plus, et que nous serons emportés par notre désir. Maintenant que nous avons vu en général ce que nous défend ces commandements, prenons-les en particulier. Et tout d'abord le 9e, qui porte davantage sur la sainte vertu de pureté. Ce commandement va nous interdire le simple désir d'épouser la femme du prochain. Un commandement était déjà là pour nous interdire les actes d'impureté. Ici, le bon Dieu précise, c'est le désir qu'il ne veut pas voir en nous, car il sait qu'il est la source du mal. Et ce commandement s'étend bien sûr à la jeune fille fiancée et encore plus à la femme consacrée. Pourquoi cela ? Il est facile de le comprendre. Dans l'Ancien Testament, cela empêchait les maris de répudier trop facilement leur épouse. C'était encore le temps où la grâce n'était distribuée que par petits filets. Et pour les Hébreux ayant le cœur dur, par Moïse, le bon Dieu avait permis, dans certaines circonstances, que les maris répudient leurs femmes. Ce commandement vient empêcher les maris de le faire trop rapidement. Dans le Nouveau Testament, maintenant que nous sommes sous la loi d'amour et que la grâce nous est donnée à profusion par les sacrements, ce commandement va venir défendre la sainteté du mariage en interdisant absolument le divorce. Le 10e commandement, quant à lui, va venir nous interdire le simple désir de posséder les biens qui appartiennent au prochain. Et le bon Dieu va même jusqu'à détailler les sortes de biens qu'il nous est interdit de convoiter. Il nous connaît bien. Il sait que nous trouverions toujours une petite faille. Alors, il descend dans les détails. Il va nous interdire de convoiter la maison du prochain. Entendons-nous. Il ne s'agit pas que de murs, il ne s'agit pas que d'un toit. La maison ici signifie les biens qui sont un peu importants, toute possession. Et gardons-nous de restreindre cela au niveau matériel. Bien sûr, il y a la richesse, mais il y a aussi la puissance, l'honneur, la gloire, la noblesse. Tout cela, le bon Dieu nous interdit de le convoiter. Et puis, le bon Dieu précise, après nous avoir interdit en général de convoiter toutes sortes de possessions, il va descendre d'un degré. Il va descendre jusqu'au bœuf et à l'âne. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il va, par ces deux exemples, nous interdire de convoiter même les biens d'ordre inférieur, même les petites choses. Car en nous laissant convoiter les petites choses, le bon Dieu savait que d'une petite chose en petite chose, nous irions immanquablement dans des ordres, dans des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus nobles, beaucoup plus importantes. Donc, il va nous interdire même de convoiter les choses les plus minimes. Le commandement poursuit. Tu ne désireras pas la servante ou le serviteur de ton prochain. Du temps où il y avait des esclaves, puis des servantes et des serviteurs, cela se comprend facilement. Aujourd'hui, nous pourrions faire l'analogie avec ceux qui ont des employés. Il est interdit, par exemple, de débaucher un ouvrier qui travaille bien pour pouvoir ensuite l'engager à son propre service. Maintenant que nous avons vu ce qui est défendu, voyons ce qui nous est recommandé. À travers toutes ces prescriptions, le bon Dieu a en vue de nous apprendre le détachement des biens de cette terre, le détachement du créé, le détachement des créatures. Ne pas attacher notre cœur aux biens de la terre. Et ceci, qu'on les possède ou non. Dans le sermon sur la montagne, Jésus insistera sur la pauvreté en esprit. Bienheureux les pauvres en esprit. Il y a des riches qui sont très pauvres. Il y a des riches qui sont parfaitement détachés de leur richesse. Et, à contrario, il y a des pauvres qui sont très riches, qui n'ont pas beaucoup de biens, mais qui y sont très attachés et qui désirent beaucoup d'autres biens. Non, ce que le bon Dieu demande surtout, c'est d'être détaché de ce que l'on possède pour pouvoir vaquer plus facilement aux choses du ciel, pour pouvoir s'attacher plus facilement à lui. Saint Jean de la Croix nous fait bien comprendre ceci par une petite image. L'oiseau, dit-il, qui est pris par une chaîne ou une petite ficelle, ne s'envole pas. Que ce soit une grosse chaîne, que ce soit la ficelle la plus mince, tant que l'oiseau est attaché, il ne s'envole pas. Pour nous, c'est la même chose. Que nous soyons encombrés de plein de biens terrestres, que nous en soyons attachés à un seul d'entre eux, de toute façon, nous sommes attachés. Et cela nous empêche d'aller à Dieu. Cela nous empêche d'être complètement à Dieu. Alors comment faire pour pratiquer le détachement? Eh bien, la première chose, c'est de donner généreusement dans la mesure de nos moyens. Il est évident que, selon le salaire que l'on reçoit, selon la famille plus ou moins nombreuse que l'on a à nourrir, on pourra donner plus ou moins. Ce qui compte, c'est de donner, chacun selon la mesure de ses moyens, et de donner généreusement, c'est-à-dire avec bonne grâce, et non pas à regret. Pensons à ce qu'a dit notre Seigneur lorsqu'il a vu la pauvre veuve poser sa toute petite obole dans les caisses du temple. Eh bien, il a dit que cette pauvre veuve avait donné bien plus que tous les riches qui étaient passés avant et qui avaient fait sonner leur richesse aux yeux de tout le monde. Si l'on ne peut pas donner pour telle ou telle raison, alors il faut supporter l'indigence avec paix et avec joie. Si nous sommes trop pauvres pour pouvoir donner, eh bien, pour pratiquer le détachement, il faudra accepter la volonté de Dieu sur nous avec paix et même avec joie, en pensant que le Sauveur, le Maître du ciel et de la terre, n'avait pas une pierre pour reposer sa tête. Et que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre, de toute façon, il faut être prêt à tout sacrifier pour notre Seigneur. Voyons plus précisément quelques moyens adaptés à notre époque pour lutter contre la convoitise, contre la concupiscence. Dans notre société de consommation, des milliers d'euros, peut-être même des milliers d'euros, des millions d'euros sont dépensés pour exciter notre convoitise. La publicité est devenue un travail, un métier qui demande des années d'expérience. Et tout est fait pour nous exciter, exciter notre convoitise. La couleur, la forme, l'emplacement. Il faut le savoir pour savoir résister contre ces appels à notre concupiscence. Ce serait beaucoup trop long d'énumérer toutes les manières. Permettez-nous d'attirer votre attention sur deux sources qui sont plus dangereuses. C'est à vous, chers jeunes gens, chers messieurs, que ce premier appel s'adresse spécialement. La plus grande source, l'une des plus grandes sources aujourd'hui de péché, c'est Internet. C'est là où notre convoitise va être sollicitée à tout moment. Or, malheureusement, cet outil du diable devient de plus en plus difficile à s'en passer. Il devient très difficile de se passer d'Internet. Alors, eh bien, il faut être prudent. Il faut savoir que c'est dangereux et il faut s'armer. Un soldat qui part à la guerre n'oublie pas de prendre ses armes, il irait au suicide. Nous aussi, il faut nous armer. Comment cela ? Eh bien, par exemple, ne pas aller sur Internet sans avoir fait auparavant une petite prière. Se fixer très exactement ce que l'on veut chercher pour ne pas être pris et passer de site en site où nous serons exposés à un danger bien plus grand. Et nous ayant exposés inutilement, le bon Dieu retirera sa grâce. Nous tomberons presque infailliblement. Il faut cibler ses recherches. Est-ce que c'est vraiment utile, nécessaire ? Est-ce que je ne peux pas faire autrement ? Est-ce que je dois vraiment y aller ? Prendre aussi le bon moment. Quand est-ce que je dois y aller ? On peut aussi, par exemple, accrocher une médaille miraculeuse sur l'ordinateur. Sous les yeux de l'Immaculée, nous serons moins tentés de pécher contre la pureté. Donc, prendre toutes sortes de moyens pour se méfier d'Internet. Si on ne peut pas s'en passer, il faut au moins prendre tous les moyens pour ne pas tomber. Une deuxième chose dont il faut se méfier, et cela s'adressera plutôt à vous, mesdames, c'est quand vous allez faire des courses, quand vous sortez en ville. Tout est fait pour attirer votre attention. Tout est étudié pour que vous puissiez dépenser, acheter, que ce soit les vitrines, que ce soit la manière dont les choses sont exposées. Tout est là pour solliciter votre envie d'achat, dépenser, et exciter votre convoitise. Et la maison se remplit de bibelots inutiles de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Ce n'est pas parce qu'il y a des soldes, ce n'est pas parce que cela coûte moins cher qu'il faut forcément acheter. On n'achète pas le prix. On achète ce qui doit être utile et nécessaire. Alors, dans ce monde qui vient sans cesse nous solliciter au mal, en excitant nos convoitises, nos passions, en venant réveiller nos désirs, il importe d'être beaucoup plus prudent que nos anciens, que nos ancêtres. Il faut que nous nous armions de courage, de prudence. Il faut que nous prions. Il faut que nous venions à la source de la grâce, au Saint-Sacrement, demander la force et le courage de nous détacher de tout. Car si nous sommes trop attachés à nos biens, d'une manière ou d'une autre, notre Seigneur finira par nous en détacher, parce qu'il nous aime et il veut que nous soyons des saints. Et si nous ne le faisons pas de nous-mêmes, il viendra, lui, nous détacher de ses babioles, de ses futilités, d'une manière quelquefois un peu dure. Alors prenons notre courage à deux mains et sachons retrancher tout ce qui excite notre convoitise, notre concupiscence, d'une manière désordonnée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.